Société, religion et charité au XIXe siècle. Colloque international organisé à l'occasion de la béatification de l'abbé Louis-Édouard Sestac 1801-1868 par la Société des sciences, lettres et arts de Bayonne et la ville d'Anglette. 15, 16 et 17 octobre 2015 à Notre-Dame du Refuge, Anglette. Élise Sestac, la grandeur de l'effacement. Voici l'intervention de Joachim Boufflet, docteur en histoire, consultant auprès de postulateurs à la Congrégation pour la cause des saints. Élise Sestac, la grandeur de l'effacement, Joachim Boufflet.
Parler d'Élise Sestac, c'est non pas sortir du sujet, mais au contraire peut-être entrer dans un aspect plus intimiste, mais non moins important, de la spiritualité et de l'œuvre de Louis-Édouard Sestac. Marie-Louise, dite Élise, est la jeune sœur de 10 ans plus jeune, donc, du bienheureux Louis-Édouard Sestac, qui fut également son parrain. Elle est morte 19 ans avant lui, jeune, après avoir consacré toute sa vie, pratiquement, aux œuvres qu'il a fondées. Sa cause de canonisation a été ouverte à Rome le 18 février 1994, au terme de longues démarches précédentes, avec le décret de la Congrégation pour les causes des saints, reconnaissant la validité du procès diocésain. Il y avait eu un procès diocésain auparavant, bien sûr. Et la position elle-même, la position étant l'ensemble biographique, critique de Louis et des écrits de Élise Sestac, a été validée et soumise à l'approbation de la même congrégation et validée donc en 2000. Et depuis 15 ans, il semble que la cause n'ait guère avancé. Élise reste effacée, en quelque sorte, derrière son aîné, jusque par-delà la mort, et comme elle l'a été de son vivant. Et je regrette, à titre personnel, je regrette un peu qu'elle n'ait pas été béatifiée en même temps que son frère. Surtout en ce temps où l'on insiste énormément sur le rôle et l'importance de la famille. Ça aurait été très intéressant de béatifier le frère et la sœur en même temps, et ça aurait été une première pratiquement dans l'histoire de l'Église contemporaine, si l'on accepte bien sûr les deux petits pastoraux de Fatima qui ont été béatifiés ensemble en 2000. C'est d'autant plus regrettable que dimanche prochain, on va béatifier le couple de Louis et Zélie Martin. Donc, un frère et une sœur auparavant, ça n'aurait pas été si mal. Bon, c'est dommage. Elle est née à Bayonne, donc, le 14 mars 1811. Elle est baptisée le jour même, et son parrain est son frère aîné, Louis-Édouard. Sa marraine est leur sœur aînée, Marianne. Dans son enfance, elle n'a pas le loisir de voir souvent son parrain et frère, puisque celui-ci rentre assez rapidement au petit séminaire, puis au séminaire, puis ensuite va à Paris, à Saint-Sulpice. Les relations entre le frère et la sœur, donc, jusqu'à son retour à Bayonne, sont assez distendues. Il ne se voit pratiquement que pendant les vacances. Et en plus, durant sa première enfance, il est évident qu'elle n'a pas grand-chose à lui dire, et lui non plus. Mais ces relations vont très rapidement se renforcer, surtout de la part d'Élise, par une admiration, on dirait inconditionnelle, à l'égard de son frère aîné. Elle lui est très attachée, effectivement, et Louis-Édouard aussi aime beaucoup sa petite sœur, mais avec un sentiment de responsabilité, il est son parrain, à la fois bienveillant et vigilant, que, à première vue, on qualifierait peut-être de dirigiste ou paternaliste. En effet, il prend son rôle de parrain très au sérieux. Avant même que la petite fille sache lire, il ne manque jamais, dans ses lettres à leurs parents, d'avoir un petit mot pour elle, de lui écrire quelques lignes, et déjà de la diriger, de l'orienter. Ainsi, par exemple, « Et la bonne Élise, oh vraiment, je suis charmé de son application. Je veux aussi lui envoyer quelque chose pour la récompenser, mais je ne sais pas quoi, ce que ce sera. Au reste, j'y penserai. Mais je le répète, et là, on voit tout à fait le futur abbé Sestac, je le répète qu'elle continue à m'écrire. Je jugerai si elle va de mieux en mieux. Oh, ce que je veux aussi, c'est qu'elle soit bien pieuse. Ma pauvre enfant, ma pauvre Élise, oh, que je serais heureux que tu aimes bien le bon Dieu, si tu le pries du fond du cœur, si tu observes ses commandements. C'est surtout, ma chère sœur, ce que je te recommande. Sois persuadée que la plus agréable nouvelle pour moi sera d'apprendre que tu deviens de jour en jour plus sage, plus humble, plus modeste, plus pieuse, plus obéissante, et que tu as la crainte de Dieu. Adieu, ma chère Élise, prie bien pour moi. Donc le parrain prend son rôle extrêmement au sérieux et déjà cadre un peu sa filleule. Et plus tard, il lui écrit lorsqu'il en a le temps, pas assez souvent à son gré, comme elle le lui reproche, et il doit la reprendre. J'ai cependant une observation à te faire. C'est que soit que je t'écrive, soit que je ne t'écrive pas, tu dois être également contente. Tu sens bien que chargée d'occupation comme je le suis, je n'ai pas toujours le temps de te répondre. Il ne faut pas, ma bonne amie, prendre de mauvaises habitudes. Tu es encore une enfant et rappelle-toi, c'est ton frère qui te le dit, que rien n'est plus insupportable que les prétentions. Au contraire, rien de plus agréable à Dieu et aux hommes que la modestie et l'humilité. Il tempère quand même. Ce n'est pas un reproche, ma bonne Élise, c'est un petit avertissement fraternel que sans doute tu seras bien aise de recevoir. Je ne sais pas si elle a été bien aise de le recevoir. La suite de leur relation prouvera quelquefois le contraire. C'est une fillette très gaie et très drôle, voire espiègle. Elle est éduquée au sein d'une famille unie, pieuse, et comme elle est la petite dernière, elle est la coqueluche de tout le monde. Et elle devient une adolescente, puis une jeune fille d'une exquise féminité qui reçoit la formation classique des filles de ses familles et de son milieu à ses futurs devoirs d'épouse, de mère et de maîtresse de maison. Donc une instruction sommaire mais rigoureuse, une solide piété et l'apprentissage, bien sûr, des tâches ménagères, des travaux d'aiguille, quelques arts d'agrément, notamment la musique. Elle jouera de la guitare, elle chantera très bien. Et si elle s'accommode parfaitement de cette vie, cela ne lui suffit quand même pas tout à fait, parce qu'elle est très rieuse, très gaie. Elle aime la danse, ce que son frère lui reprochera. Rappelons-nous aussi le curé d'Ars, qui à la même époque disait que la danse était la porte de l'enfer. Les bals étaient la porte de l'enfer. Donc elle aime la danse, elle aime la toilette. Elle est coquette, elle se regarde trop dans le miroir, dit son frère, et Louis-Édouard craint qu'elle devienne frivole, d'autant plus que les parents lui passent tout. Un biographe dit, elle plaisait au monde, et le monde lui plaisait. Aussi, le travail patient, mais très austère, du jeune abbé vise-t-il à la détacher du monde, de ses illusions et de ses attraits, et à l'amener à s'effacer. S'effacer aux yeux du monde, bien sûr, mais s'effacer aussi en Dieu, en vue de son salut éternel, parce que c'est ce qui compte pour l'abbé Sestac, le salut de sa petite sœur. Et donc s'effacer également à ses propres yeux, pour ne se situer que sous le regard de Dieu. En effet, sous ces dehors charmeurs, riants, espiègles, à l'occasion très coquets, Élise est une nature scrupuleuse et anxieuse. À première vue, rien n'y paraît. Élevée au milieu des caresses, dit un biographe, la nature éminemment nerveuse d'Élise devint d'une sensibilité extrême. Elle fut tout sentiment. Si elle avait les défaillances de la sensibilité, elle en avait aussi le charme pénétrant. Son intelligence était ouverte à toutes les manifestations du beau. Son cœur ardent débordait de sympathie. Elle avait la gaieté pittoresque et expansive des méridionaux. Donc cette joie de vivre apparente marque une nature en réalité scrupuleuse, anxieuse de faire son salut, marquée par l'esprit janséniste que, malencontreusement, lui inculque un confesseur très austère et en même temps assoiffé de perfection. Elle se trouve pendant plusieurs années constamment ballottée entre les attraits du monde et son aspiration à la sainteté, qui se livre un rude et permanent combat dans son âme, dont elle s'ouvre prudemment par petites touches et avec des ruses de femme, dira Louis-Édouard Sestac, à son frère. Celui-ci, à force d'affection, de bienveillance, de patience, parvient progressivement à la pacifier par période, au fil de conseils dont elle discerne le bien fondé et l'avantage pour sa vie spirituelle. Avec le retour de Louis-Édouard à La Ressort en 1827, puis à Bayonne en 1831, les relations entre le parrain et la filleule se font plus fréquentes, bien sûr, non seulement grâce aux rencontres et aux entretiens de vive voix, désormais plus faciles, mais encore par un échange de correspondances plus régulier, fondé sur une exigence de confiance de la part du parrain. « Je suis ton frère, dit-il, ton parrain, ton ami. » À ce triple titre, je te dois tous mes soins, toujours cette nécessité d'être le parrain qui veille sur la filleule, je te dois tous les soins et j'ai droit à ta confiance. Il exige de sa sœur une confiance sans faille et une ouverture totale. Elle-même, consciente du bien qu'il fait à son âme, vient finalement à lui demander explicitement de l'accompagner spirituellement, ce qu'il fait déjà depuis un certain temps, et d'être, comme on disait à l'époque, son directeur spirituel à la place de ce confesseur janséniste et quelque peu austère qui ne réussissait pas à combler sa soif d'absolu et ses aspirations à la sainteté. Le glissement s'est fait insensiblement, à la faveur de leurs lettres et de leurs échanges, bien sûr, et surtout après une maladie sérieuse d'Élise en 1828, où elle a tout loisir de réfléchir à son salut. C'est alors qu'il lui paraît évident qu'elle doit confier le soin de son âme à son frère et parrain. Elle a néanmoins du mal à lui ouvrir son âme comme elle le voudrait, parce qu'elle craint de le décevoir, de perdre son estime et plus encore son affection. Il faut dire que la situation est un peu complexe. Être à la fois le père, le frère, le parrain et le père spirituel, ça fait beaucoup. Et elle va se confesser comme elle l'avoue, avec tant de goût pour le mal, tant de dégoût pour le bien, tant de passion pour le plaisir, tant d'indifférence pour Dieu, qu'elle a peur d'avouer tout, et tout d'un coup. Mais en même temps, elle se montre très désireuse de recevoir les avis de son frère et ses conseils, insistant pour qu'il s'occupe de son âme, et en même temps anxieuse de lui déplaire ou de l'importuner, si bien qu'il doit constamment la rassurer. « Ne crains pas, lui écrit-il, ma chère enfant, que ta confiance m'importune. Et pourquoi suis-je prêtre, si ce n'est pour consoler les affligés, éclairer ceux qui sont dans l'obscurité, guérir les infirmes? Et qui entrera mieux dans tes besoins, qui prendra plus d'intérêt à ton bien spirituel que ton frère? Ne connais-tu pas l'attachement que j'ai pour toi? Ne crains pas de me faire de la peine. Parle-moi selon que ton cœur t'inspirera et crois que le mien te sera toujours ouvert. » En fait, elle a constamment besoin d'être rassurée sur elle-même. Et Louis-Édouard a très bien perçu cela, et il entend d'elle qu'elle s'efface devant cette image qu'elle se fait d'elle-même pour se découvrir, au double sens du terme, telle qu'elle est devant Dieu, c'est-à-dire aimée de Dieu. C'est la grande entreprise de Louis-Édouard sur sa sœur, lui faire comprendre et lui faire admettre qu'elle est aimée de Dieu. Elle se sent toujours indigne, toujours pécheresse, et il aura toutes les peines du monde, il faut bien le dire, à l'amener à cette confiance et à cet abandon final à la miséricorde de Dieu. Et ce n'est pas une chose facile, comme il le lui rappelle dans une lettre qu'elle prend d'ailleurs très très mal. « Tu es toujours, lui dit-il, à faire de longues jérémiades sur tes misères. Je vois bien ce que c'est. Tu voudrais que je prenne ton mal avec la main, que je te l'arrache, et que je te rende tout à coup, comme par miracle, pleine de ferveur, d'amour de Dieu. Alors tu demandes lettre sur lettre, espérant qu'elles vont opérer ce prodige. » Tu es dans une grande illusion. Elle est très bouleversée par cette lettre, très choquée, et c'est elle qui décide, volontairement cette fois, de s'effacer, non plus devant le monde ou devant elle-même, mais devant son frère. Elle ne l'importunera plus avec ses jérémiades, elle ne quémandera plus lettre sur lettre, et elle lui écrit, ce à quoi il est obligé de répondre aussitôt pour ramener la paix dans son âme. Quoi qu'il en soit, comme nous savons qu'il n'y a pas de frères et de sœurs qui s'aiment plus que nous, comme tu sais que ton salut m'est plus cher que tout, laissons tout cela et qu'il n'en soit plus question. Cela la rassérène, bien sûr, mais cela ne la satisfait pas, parce qu'elle se montre découragée, comme dit-elle, malade, toujours dans les mêmes peines, les mêmes embarras de conscience. La nature réclame et redoute de céder tous ses droits. Alors elle lui demande un règlement de vie. Prudent et sage, il se refuse à le lui donner, lui indiquant simplement les grandes lignes de conduite qu'elle doit tenir pour rester dans la grâce de Dieu. Une vie de prière régulière, le respect des parents, avec une obéissance, dit-il, prompte, douce, aimable, pleine de bonne volonté, le lever matinal et un travail consciencieux, et surtout la fidélité à l'oraison. S'il est vrai, comme tu t'en plains, que tu sois sujette à la légèreté, c'est le seul remède pour guérir ce défaut qui est beaucoup plus dangereux qu'il ne le paraît tout d'abord. En effet, ce dont elle s'accusera pendant longtemps, c'est d'être légère, inconstante et tiraillée vers le monde. Est-ce à dire pour autant qu'il la dirige au sens négatif du terme, en l'obligeant à suivre une voie qui lui répugne? Pas du tout. Il n'est en sa direction spirituelle rien de contraignant, et elle prend ses décisions librement, après les avoir soumises à l'appréciation de son frère, comme lorsqu'au printemps de 1831, un jeune homme la demande en mariage, séduit par son charme. En effet, elle est, dit son biographe, de physionomie agréable et expressive, svelte, élégante de mise et de tenue. Elle paraissait un peu sérieuse au premier abord, mais s'animait bientôt d'une douce gaieté, active, prévenante, aimable et distinguée, aristocrate de traits et de langage. Bref, une jeune fille tout à fait agréable. Avant de répondre, Élise se confie à sa mère, comme font souvent les filles dans ce cas-là. Faisait, maintenant c'est un peu moins. Elle en parle également à son frère, qui la laisse libre de son choix. Et lorsqu'elle a pris sa décision, refuser ce prétendant, il l'approuve pleinement et la réconforte. « Ta conduite en cette affaire, lui dit-il, est louable. Tu as consulté ton directeur, tu t'es ouverte à maman. C'est ainsi que doit agir une âme chrétienne, et alors Dieu la bénit et la dirige. Tu y renonces, tu fais bien. En cela, tu es dans la voie de Dieu. » Élise est rassurée, pacifiée, et elle restera donc auprès de ses parents, de leurs parents, qui vieillissent, pour leur plus grande joie. Elle se fixe à ce moment-là elle-même, de son propre chef, la règle de vie que son frère n'a pas voulu lui donner. Elle l'appelle le petit règlement et elle l'observera jusqu'à la fin de son existence, avec la grâce de Dieu, dit-elle. Elle porte un cilice, reste probable de jansénisme. Elle restreint ses sorties, ne voit plus ses amis, mène une vie quasi-monastique à la maison, effacée aux yeux du monde. Et son frère, qui est très réaliste et qui n'entend pas la voir devenir un été noir ou une vieille fille bigote, est obligé d'intervenir. Le salut ne consiste ni à devenir religieuse, ni à rester dans le monde, mais à faire en toute chose la volonté de Dieu. Il l'invite donc à revoir ses amis, à s'engager dans la chorale de la paroisse qu'elle était allée jusqu'à abandonner, non sans se féliciter et la féliciter de ses progrès. Et elle a à ce moment-là une sorte de conversion, en tout cas un moment très fort de son existence, qu'elle lui exprime dans une lettre d'une grande importance, me semble-t-il. Je vous le lis, c'est un peu long, mais ça montre vraiment un élan profond et un tournant dans sa vie. « Oh, que je suis heureuse !» lui écrit-elle. « Je puis donc me dire, tu es l'ami de Dieu. Il y a bien longtemps que je ne pouvais me rendre ce témoignage. Enfin, me voilà désabusée. Comme j'étais insensée de préférer les créatures au Créateur. Et qu'ai-je trouvé ? Ah, bien des peines et des tourments. Et cependant, je les aimais, ces peines. Je les préférais à cette joie réservée aux enfants de Dieu. Et quand bien même j'aurais éprouvé quelques moments de joie et de plaisir, ils passaient bien rapidement, et il ne me restait que des remords. Oui, je vois clairement, mon cher frère, la folie qu'il y a à s'attacher au monde, et malgré cela, il faut que je l'avoue, je sens encore que je l'aime. Mon cœur n'est pas tout à fait détaché. Cependant, je suis bien déterminé à lui faire une guerre continuelle et malgré mon extrême faiblesse, j'espère avec la grâce de mon Dieu remporter la victoire. J'ai commencé à combattre. Non, rien n'est comparable à la paix de l'âme. Aussi ai-je commencé ma lettre en te disant que je suis heureuse. Et c'est vrai, je le suis. Mais l'avenir me fait trembler. Demande, je t'en conjure, à Dieu, pour moi, la persévérance. Tu sais le grand besoin que j'ai de son secours. Donc, une attitude extrêmement réaliste sur elle-même et en même temps une ferme détermination à s'engager dans l'accomplissement de la volonté de Dieu, ce que lui demandait son frère. Est-ce à dire qu'elle est définitivement établie dans la paix ? Certes pas. Jusqu'à la fin de sa vie, elle aura à combattre ses angoisses et ses scrupules. Mais elle le fera désormais avec cette ferme volonté de se sanctifier en s'en remettant sans réserve à la direction spirituelle de son frère. Au moment où l'abbé Sestac entreprend la fondation de l'orphelinat, c'est vers Élise que tout naturellement il se tourne pour concevoir, par exemple, et réaliser l'uniforme des futurs pensionnaires. Alors elle achète l'étoffe, elle découpe, confectionne les habits, et à une personne qui la surprend en train de coudre, elle répond, lorsque cette personne lui demande ce qu'elle fait, elle répond en riant, « Je fonde un ordre ». Elle ne croyait pas si bien dire. Et c'est elle qui accueille les premières orphelines, au nombre de 7, elle les lave, elle les épouille, parce qu'elles sont couvertes de vermine, les habille de neuf, puis elle les accompagne avec leur directrice à la cathédrale et à l'évêché, où Mgr Darboux les bénit. Et elle se retire. Elle s'efface. Elle a fait ce qu'elle avait à faire, elle s'efface. C'est le 11 juin 1836. Elle mène donc cette vie de retrait, mais néanmoins très attentive à l'œuvre de son frère, qui lui rendra ce témoignage. Dès les commencements, elle s'était très vivement intéressée aux orphelines, elle allait souvent les visiter, il semblait que son cœur l'inclinait à se donner entièrement à l'œuvre. Le passage des orphelines de leur premier logis, la cuisine ou gassé, au Grand Paradis en 1838 amène Élise à s'établir définitivement auprès des fillettes et de leurs éducatrices qui bientôt l'élisent leur directrice. L'élection est ratifiée par l'évêque, Mgr Lacroix, qui nomme officiellement Élise directrice des œuvres de l'abbé Sestac le 9 novembre 1838. Elle entre dans ses nouvelles fonctions sans heurts, sans questionnement. Elle se coule dans l'esprit de l'œuvre, toujours soucieuse d'effacement et de n'accomplir qu'en tout la volonté de Dieu qu'elle le voit signifier dans la direction de son frère. Son réalisme face à une situation qui n'est pas facile, sa défiance d'elle-même, sa volonté de correspondre surtout à ce que Dieu attend d'elle, l'empêche, avec une santé fragile et le constant retour de ses angoisses et de ses scrupules, de se tourner sur elle-même. Elle s'efface dans les difficultés du quotidien et le souci des orphelines, ne s'imaginant pas prêchant d'exemple ou donnant des leçons, quand bien même elle est pour tout un modèle vivant. Elle est appelée en même temps à vouvoyer son frère qui exige ça d'elle. À partir du moment où elle est directrice des œuvres, il faut qu'il y ait un nouveau type de relation entre eux, plus distant, qui la fasse respecter par les élèves, par les orphelines. Et donc, il lui demande de la vouvoyer, de le vouvoyer, et elle est également vouvoyée par lui. Elle le prend encore une fois très mal. Ça, c'est comme ça. Et finalement, elle se résigne, tant bien que mal, à cette nouvelle situation. Plus tard, lorsque l'abbé fonde les éducatrices, groupe les éducatrices en une association de servantes de Marie, prélude à la fondation effective de la congrégation, la directrice devient Mère Marie-Madeleine. Elle est la première à faire sienne la ligne directrice inculquée par le fondateur, un apostolat exercé dans l'oubli de soi et la confiance radicale en la divine providence incarnée dans la confiance même de la Vierge Marie. Pour Élise, être servante de Marie, c'est s'effacer en Marie et pour Marie. Le projet trouve sa concrétisation dans sa profession religieuse du 6 janvier 1842, qui établit canoniquement la congrégation. Comme supérieure, Mère Marie-Madeleine et mère est mise en avant par ses fonctions. Mais elle parvient encore, par-delà cet exercice de la fonction de supérieure, à s'effacer davantage en se remettant sans réserve à la Vierge Marie, comme elle en a pris l'engagement lors de sa profession. Conduisez-moi par la main, réglez toutes mes paroles, toutes mes démarches, que je ne fasse rien qui ne vous soit agréable. Et les 7 années qui lui restent à vivre seront consacrées entièrement à la congrégation dans cet esprit de service et d'effacement malgré des épreuves qui ne cesseront de l'accompagner jusqu'au terme. Une santé fragile, souvent défaillante, le retour lancinant de ses crises de scrupules, les absences de celui qu'elle appelle désormais le bon père, que sa sensibilité a du mal à supporter, et même de violentes tentations de jalousie, des sentiments, dit-elle, qu'elle ne peut définir, de répugnance, de jalousie, de je ne sais quoi, contre d'autres religieuses. La pensée lui est même venue que peut-être cette sœur, dit-elle, serait bien aise d'écarter d'elle son bon père. Et toutes ces épreuves intérieures l'amènent à l'ultime détachement qui lui fera dire, quelques jours avant sa mort, quelques heures même avant sa mort, néant, néant, néant.
Élise Sestac, La grandeur de l'effacement. Vous venez de suivre l'intervention de Joachim Boufflet, docteur en histoire, consultant auprès de postulateurs à la Congrégation pour la cause des saints. Société, religion et charité au XIXe siècle. Colloque international organisé à l'occasion de la béatification de l'abbé Louis-Édouard Sestac 1801-1868 par la Société des sciences, lettres et arts de Bayonne et la ville d'Anglette. 15, 16 et 17 octobre 2015 à Notre-Dame du Refuge, Anglette. Thank you.